On aura tout vu avec Christine Masson et Laurent Delmas. Bonjour à tous les deux.
Bonjour et merci Valentine.
Oh, dis donc.
C'est comme pour un acteur, c'est la personnalité, sa présence.
Franchement, ma chère, c'est le cadet de mes soucis.
Je m'appelle Berlin Noël et j'aime bien les yens.
Come on, guy. Be sweet with me.
C'est tellement intéressant de voir la réaction des spectateurs à qui on peut déplaire. J'aime bien frôler les catastrophes.
Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.
On a tout vu.
Allez, action!
Action, pourquoi faire?
Un jour, on dira qu'il y a eu deux faits marquants dans l'histoire du cinéma français. L'arrivée d'un train en gare de La Ciotat en 1896 et son arrivée à lui dans une maternité de Saône-et-Loire un jour de février 87. On dira aussi, il était sympa, toujours à l'heure sur les plateaux, il embrassait bien, mais il se prenait pas pour de la crotte de bic. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour.
Il a tourné avec les plus grands, de Ferreri à Sofia Coppola en passant par Jane Campion, Kurosawa, Méliès, Peter Jackson et Max Pécas. Sans se soucier ni des styles, ni des époques et encore moins du qu'en dira-t-on. Avant d'entamer le tournage du nouveau film de Pedro Almodovar dans lequel il donnera pour la première fois la réplique à Martin Lamotte, il nous fait l'amitié de passer par notre studio. Bonjour Vincent Dedienne. Bonjour Christine Masson. Vous n'avez jamais vu ni Star Wars, ni Taxi Driver, ni Princesse Mononoké, ni Grise, ni Le Grand Bleu, ni Le Bon, ni La Brute, ni même Le Truand. Mais vous pleurez quand Jean Reno dit au revoir à sa petite fillotte avant de retourner d'où il vient. Vous nous partagez ce matin vos coups de cœur dans le respect des normes sanitaires en vigueur. Avec vous, nous évoquerons des films et des gens qui comptent pour vous et qui vous ont donné le goût, si ce n'est du cinéma, du moins de la fantaisie et de la vie en mieux. Nous parlerons de l'amitié, de fantômes, de la sensualité d'Agnès Jaoui et de celle de Sabine Azéma. Et nous entendrons des voix chères qui, on l'espère, ne s'atteindront jamais. C'est votre carte blanche. Et puis dans la deuxième partie, on vous recommandera des livres et quelques DVD, des recettes de cuisine aussi. Et Laurent Delmas nous donnera quelques astuces déco pas chères.
Exact.
Et s'il nous reste du temps en fin d'émission, moi, Christine Masson, je ferai un petit striptease burlesque que j'ai répété cet après-midi, hier après-midi avec les filles du film d'Amalric. Et qui sera visible sur la page Facebook de l'émission On aura tout vu. Enfin bref, cette semaine encore, on fera tout ce qu'on peut pour alimenter le contenu de l'émission alors que les salles sont fermées depuis maintenant 4 ans. Mais avant ça, on écoute un petit medley qu'on concocté spécialement pour vous, Vincent. Et puis ensuite, la vraie et l'irremplaçable Christine Masson reprendra le contrôle de son émission. C'est parti.
Oui, c'est vrai, j'ai été une mauvaise mère, une mauvaise amie. Et alors hein, je préfère avoir été une mauvaise mère, une mauvaise amie et une bonne actrice. Et si toi, tu me le pardonnes pas, le public me le pardonne. Je sais pas pourquoi je te dis tout ça, parce que tu peux pas comprendre ce que ressentent les acteurs.
Mais bien sûr que ça m'intéresse, je m'envoyais en l'air. Ça t'intéresse pas, toi? Et même si c'était qu'une belle histoire de cul, j'ai pas le droit d'en avoir une belle histoire de cul, moi. Mais ils sont insensés, tous les deux. Comment ils croient qu'ils sont venus sur cette terre? Vous croyez que je vous ai fait avec mes oreilles? Je vous ai fait avec mon cul, mes petits poussins. Même qu'à l'époque, c'était drôlement chouette, le cul avec votre père. Mais voilà, que vous voulez maintenant, il se passe plus rien entre nous. Alors, ça vous fait peut-être pas tellement plaisir de l'entendre, mais votre mère, elle a un cul qui va très bien. Va mieux que jamais, même.
Tu sais, tu disais que j'avais peur, Michel. C'est vrai, j'ai peur. Parce que je voudrais que tu m'aimes. Et puis, je ne sais pas. En même temps, je voudrais que tu m'aimes plus. Je suis très indépendante, tu sais.
J'ai toujours pensé qu'il me tromperait. À ce moment-là, c'était insupportable. Et puis après, ça a évolué. Finalement, il me trompait. Je l'ai appris, c'était dramatique. Et puis après, ça m'excitait. Je sais pas encore, mais enfin, je sais que c'est bien parce que... Parce que j'étais morte, finalement. Je crois que j'étais un... J'étais là. Et puis maintenant, tout m'est permis. Je peux tout faire. Je peux tout faire.
Bonjour Vincent Dedienne.
Ça va, Christine?
Merci beaucoup pour votre superbe sommaire. Catherine Deneuve, Maria Pacaume, Jean Seberg, Annie Girardot, je crois que c'est quatre grandes actrices que vous aimez beaucoup, au registre très différent, des grandes personnalités. Ce sont les actrices, dites-vous, qui m'ont fait entrer dans le cinéma, c'est-à-dire...
C'est-à-dire que oui, je sais pas, c'était mon hétérosexualité, les actrices. Je trouve ça tellement je trouve ça tellement bizarre, ce métier. Enfin, quand j'étais spectateur de films et tout ça, quand j'étais petit, je me disais mais qu'est-ce que c'est... Je sais pas pourquoi, un acteur, ça me paraissait banal. Mais une actrice, je me disais tiens, ça c'est vraiment extraordinaire de faire ça. Ça me paraissait plus dur, plus j'avais l'impression qu'il fallait avaler plus de couleuvres, plus de que c'était un chemin plus laborieux, plus dur, plus étonnant et
presque une vision féministe un peu non par rapport
c'est bizarre ouais. Oui, peut-être j'avais déjà une la notion de ça ouais et puis je sais pas c'était faut dire elles étaient mais là je m'aperçois en entendant le medley que peut-être c'est les voix aussi parce que c'est quand même Girardot c'est quand même une voix aussi hein.
c'est dans le Vivre pour vivre de Lelouch
ouais.
Vous savez Robert Mitchum il disait une actrice c'est un peu plus qu'une femme et un acteur un peu moins qu'un homme.
J'adore cette phrase ouais. Mais bon je la comprends pas trop.
Mais non plus.
On sait pas bien si elle est bien ou si elle est con.
C'est un concentré de femmes, c'est-à-dire que une actrice doit posséder toutes les qualités en plus en puissance 1000 d'une femme. Alors peut-être.
Oui, c'est ça. Et puis je pense que c'est un peu. En fait, il y a quand même encore moi quand j'étais petit puis toujours maintenant, on n'est encore pas l'idée qu'une actrice est une pute. Elle est encore pas très très has-been cette idée, je trouve.
Ouais.
Souvent, je pense même. Il y a même eu des exemples récents où en fait des actrices se faisaient taper, agresser parce que on fait pas la différence entre leur rôle et leur métier.
Sont... Ouais.
Pourquoi je disais ça? Parce que parce que effectivement c'est un concentré de
féminité.
De féminité et puis je sais pas moi j'avais l'impression de voir à la fois des mères, des amies, des amantes, des sœurs, des copines et puis des gens qui avaient plus de d'humour et de fantaisie. Et
ou
puis,
alors c'est la phrase de Depardieu qui disait qu'il voulait être l'homme qui est Catherine Deneuve.
Ouais ouais, alors ça ouais ça aussi.
Pas mal non plus.
Ouais. Et elle répond moi j'aimerais bien être si je devais être une femme, j'aimerais être Gérard Depardieu.
Oui, c'est ça, exactement. Ça. Et puis, vous êtes devenu acteur. En fait, vous êtes vachement jeune, vous avez fait énormément de trucs déjà. 10 ans de théâtre, le premier spectacle en 2011. 8 films, c'est... Vous allez super vite.
Ah bon ? Mais j'ai pas l'impression, moi, quand même. J'ai l'impression, mais parce que j'ai fait 8 films, mais je fais mes classes encore. C'est-à-dire, je fais des petits rôles, j'apprends.
Mais c'est quoi l'idée ? C'est quoi l'idée par rapport... Vous avez une grande ambition de cinéma ?
Non. En fait, déjà, moi, je suis... Le cinéma est arrivé tard dans ma vie de spectateur. Déjà, oui. En fait, je voyais les films qui passaient à la télévision à la maison, les dimanches soirs, quand j'avais le droit de regarder la télé, parce que demain, il y avait école. Mais après, il a fallu que je m'installe à Paris, donc c'est-à-dire assez tard. Après, j'ai fait une école de théâtre, et il a fallu que je m'installe à Paris... que je sois au chômage, que je perde mon intermittence et que il se trouve que mon appartement était à côté des MK2, Quai de Loire, Quai de Seine, et du coup je suis allé au cinéma plus par désœuvrement que par cinéphilie. Et c'est en devenant cinéphile que j'ai eu envie de faire du cinéma. À force de voir des bons films, je me rappelle un jour j'ai vu un film de Christophe Honoré, je pense que c'était Les Bien-aimés, et là je me suis dit, ah non, là j'aime trop ça. Pour pas être dedans. Ça a commencé à m'énerver de pas être dans les films que j'aimais. mais du coup maintenant on me propose des films, mais j'en fais, mais j'ai pas non plus. C'est plutôt par goût que par ambition. Je sais pas comment dire. Mais je sais que ma vie et mon métier, c'est plutôt ailleurs.
Oui,
ouais.
La scène.
Ouais. Et que là c'est un petit apprentissage que je fais. Mais plus je fais des films, plus je commence à comprendre ce que ça veut dire de faire des films, plus je comprends ce qu'est ce métier qui n'est pas du tout le même que sur scène. Mmh. Parce que ça, c'était ça aussi qui me passionnait. Je me disais, quand j'entendais Deneuve justement dire qu'elle ne fera jamais de théâtre parce que c'était pas son métier, je me disais, ah alors est-ce que c'est ça? Parce qu'en même temps, je voyais d'autres, Huppert, qui mènent une double vie. Mmh. Hein. Et je me disais, ça, j'avais envie de savoir si c'était le même métier ou pas. Mmh. Et je trouve que ça n'a rien à voir.
Mmh. La première actrice sur votre liste, elle s'appelle Sabine Azéma. On l'écoute dans Smoking, de la Renée.
Ah, mais c'est Monsieur Combes qu'on voit là-bas.
Ouais. Sûrement en train de chercher sa femme dans les fourrés, lui.
Elle est avec qui en ce moment ?
Va savoir. Je crois qu'il y a un roulement au club de squash, tout le monde se l'a fait.
Tu te l'es faite, toi ?
Bah non.
Bon, bah alors c'est pas tout le monde, hein.
Pour l'affaire, j'ai qu'à acheter une raquette. Hein. N'importe qui peut se la faire avec une raquette.
Bon, de sucre.
3.
Fais chier. Bon, alors, vendredi, on sort ensemble.
Je sais pas.
Mais la semaine dernière, c'était oui.
Je sais pas ce que j'ai dit la semaine dernière.
Ah, parce qu'autrement, moi, je prends d'autres dispositions, hein. Bon, alors c'est oui ou sinon?
Je te dirai.
Quand?
Je te dirai.
Parce qu'autrement, je prends d'autres dispositions, hein. Sinon, c'est pas les dispositions qui manquent, hein. Moi, je te le dis, hein.
Tu parles?
Oui, bah parfaitement, hein. Et si tu veux pas sortir avec moi, je sors avec quelqu'un d'autre, quelqu'un de mon âge.
Ah ouais?
Marre à la fin.
Alors cette phrase, parce qu'autrement je prends d'autres dispositions, Vincent de Dienne. Ouais. Pourquoi cette réplique-là?
Ben, je sais pas, elle m'a marqué cette réplique parce que c'est... Parce qu'elle l'a dit deux fois de suite, en faisant le même geste. C'est-à-dire, elle donne des tout petits coups de pied dans une espèce de fausse pierre, parce que tout est faux, c'est en studio. Ouais. Et en fait... Souvent, on se dit que le cinéma, c'est un peu comme la vie. Enfin, il y a beaucoup. En fait, quand j'ai vu Smoking, je me suis dit, ah, c'est pas que naturaliste le cinéma. Ça peut être vraiment inventé. Tout peut être inventé encore plus qu'au théâtre, encore plus que dans la vie. Et ce geste-là, on le ferait jamais dans la vie. On répéterait jamais la même phrase deux fois de suite avec le même ton.
Ouais.
Et je me suis dit, mais en fait, c'est un jeu. En fait, ils s'amusent. Ces gens-là sont en train de s'amuser. René s'amuse avec Azéma et avec Arditi. Et en plus, ils font tous les personnages dans Smoking No Smoking. Donc ça, d'un coup, ça m'a surexcité parce que je me suis dit, ah, c'est vraiment un jeu. Et puis
Sabine Azéma.
Et puis Sabine Azéma. Sabine Azéma. Un jour, on m'a dit, mais pourquoi t'aimes tant Sabine Azéma? Oui. Et j'ai réfléchi parce que je voulais pas dire, bah, parce qu'elle est super. Et en fait, moi, je crois que j'ai aimé sa peau. Je crois qu'elle n'a pas la même peau. Elle a une peau que n'ont pas les autres acteurs. En fait, des fois, dans la vie, on se dit, oh là, j'adore le parfum de cette personne, j'adore sa peau, machin. Mais chez les acteurs, les actrices, ça peut être ça aussi. Et je crois que Sabine Azéma, j'ai été attiré par sa peau. Elle avait une peau avec plus de taches de rousseur que les autres. Elle avait l'air de sentir bon. Enfin, je sais pas. J'ai aimé la peau de Sabine Azéma.
Là, on la retrouve extrêmement sensuelle dans ce film hyper sensuel qui est Peindre ou faire l'amour. Elle est en couple avec... Daniel Auteuil, ils sont depuis 30 ans ensemble, ils vont s'installer à la montagne parce que elle a découvert un paysage en peignant, et en peignant, elle rencontre un autre personnage.
Qui peint ici? Bonjour, monsieur.
C'est une dame.
C'est elle qui peint?
Oui.
Enfant. Où êtes-vous?
Ici.
Parlez-moi. L'air tourbillonne.
Je suis là.
Adam est aveugle, il forme aussi avec sa femme Eva, incarnée par Amira Khazar, un couple très amoureux. Et tous les quatre vont vivre une grande expérience sensuelle, comme ce film sensuel. Vincent de Dienne, c'est un film sur une montée du désir.
Exactement, et je n'avais jamais vu, et je ne crois pas avoir revu ça au cinéma depuis, parce que je pense que c'est très dur à faire et très dur à filmer, le désir, parce que c'est quand même quelque chose qui... Enfin, c'est que de la sueur, de la chair, tout ça, donc ça doit être difficile à écrire et à filmer. Mais moi, j'aime beaucoup le cinéma des Frères Larrieux. D'ailleurs, ils sont...
Vous pourriez y être dedans, d'ailleurs, comme Honoré.
Ça, j'adorerais.
Hein, oui, faire partie de leur univers.
Quand Peindre ou faire l'amour, en fait, c'est le titre en premier. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce titre? J'ai adoré le titre, donc je suis allé voir le film pour le titre. Et je me suis pris une leçon de sensualité et d'érotisme presque. Et c'est dur. En fait, le personnage d'Adam, il est aveugle, joué par Sergi Lopez.
Oui.
Et du coup, il y a toute une scène, je me rappelle,
dans la nuit,
dans le noir,
quand il les guide.
Ouais. Ah, et ça, j'avais trouvé que c'était une expérience incroyable.
Et ils disent les Larrieux, ce qui est subversif et provocant chez eux, c'est l'innocence et la légèreté avec laquelle ils passent à l'acte. C'est vrai que c'est très beau.
Quand il parle de ses personnages?
Oui.
Ah, ouais, c'est très beau. Oui, ils le font. Mais on l'entend d'ailleurs dans la voix de Sabine Azéma. On entend qu'elle est un peu dépassée par ce qu'il s'est dit. Oui. Là. Elle comprend pas tout ce qui se passe dans le film. Dans le film, ils comprennent pas ce qui leur arrive.
Et même quand elle dit un peu de tiramisu. Non, elle est absolument merveilleuse. Ouais. C'est tout le propos de son film à elle et son ambition. Raconter une histoire autour de l'admiration pour des êtres charismatiques et de la dépendance qui en découle. C'est le sujet du rôle de sa vie de François Favra. Une pigiste dans un journal de mode, c'est Claire Rocher, c'est Karine Viard, rencontre Elisabeth Becker. Agnès Jaoui, une star de cinéma, Claire va devenir son assistante et son souffre-douleur. Alors, c'est intéressant ce thème par rapport à vous, parce que vous êtes quelqu'un, Vincent de Dienne, vous admirez beaucoup.
Oui, c'est vrai que je suis pas très radin en admiration. Ouais.
vous admirez des, où on peut admirer des gens, être fan, quoi.
Alors moi, j'adore le fanatisme.
Oui.
Moi, j'adore ça. Ça a sauvé ma vie. Ça continue de la sauver. Oui. Je passe beaucoup de temps à être fan. Je passe beaucoup de temps à me renseigner sur les gens et à les aimer. Oui. J'ai encore des posters de gens chez moi.
C'est une phrase qui pourra vous être reprochée. Hein. J'adore le fanatisme.
Mais oui.
Faites gaffe quand même.
Ouais,
mais bon, hein, je vous le dis, c'est comme ça en passant. Hein.
Non, mais c'est vrai qu'on lui fait une mauvaise pub. Oui. Ça n'est pas qu'assassin, le fanatisme. Moi, ça m'a vraiment... Non, je trouve ça super d'être fan.
Il y a toujours un petit garçon en vous qui admire.
Oui, et qui trouve ça plus grand, plus... Oui, c'est vrai, ouais. C'est vrai. Toujours, même quand je rencontre les gens... Oui, parce que ça veut dire que être fan, en fait, ça veut dire ne pas comprendre aussi ce qui se passe. Ça veut dire ne pas savoir. Par exemple, moi, je suis fan de, je sais pas, de d'Emmanuel De Vos, parce que aussi, je comprends pas ce qu'elle fait. Je comprends pas comment elle joue. Je comprends pas comment elle fait, par où ça passe, tout ça. Et en fait, je préfère ne pas comprendre plutôt que de me placer en collègue ou en spécialiste en disant, ah ben oui, toi, tu l'as joué comme ça, ouais, d'accord. j'aime bien le mystère.
Et parfois, ça peut énerver d'avoir des fans. D'ailleurs, ça énerve Agnès Jaoui dans le film.
Ah oui, et demain, après le rendez-vous d'Abdou, si tu veux, tu pourras aller voir Félicie.
Félicie?
Ben oui, comme c'est juste à côté.
Attends, mais j'ai d'autres choses à faire, puis j'ai pas envie.
Ah non, bon, excuse-moi. Je pensais que c'était pratique, comme tu m'avais dit que tu voulais y aller depuis longtemps pour voir son bébé. Que
mais
c'était
quoi,
à côté.
Non, j'ai pas envie de le voir, son bébé, si tu veux savoir. Il va brailler, il va sortir les cahiers. Moi, je vais être obligée de m'extasier comme ça pendant des heures. J'ai pas envie, voilà. Et puis, je t'ai pas demandé d'organiser ma vie privée. Hein.
D'accord, excuse-moi.
Oh, Claire, si tu pouvais arrêter de t'excuser comme ça toutes les deux secondes, hein? Je te jure, à force, j'ai l'impression d'être la reine mère.
Ok, excuse-moi.
C'est vrai. Je peux plus finir une phrase sans qu'elle soit là. Excuse-moi. Oui, oui, absolument, bravo. De toute façon, c'est toujours pareil avec ces filles-là. Au début, je les trouve toutes mignonnes, et puis rapidement, en fait, je me rends compte que je les trouvais mignonnes parce qu'elles sont d'accord avec moi. Puis de quoi elles se mêlent?
Ces filles-là.
Ah oui, c'est vrai, j'oubliais que c'est ta grande amie.
Tu racontes n'importe quoi, si je peux me permettre.
Mais moi, je la trouve adorable, cette fille.
Oui, d'accord, j'ai compris, vous êtes tous de son côté, mais je m'en fous, j'assume.
Eh bien, tu n'as qu'à la virer.
Mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai pas envie de la virer. Je te dis qu'elle m'énerve à être dans ce rapport bébé, oui, comme ça avec moi. Oui, puis ce bébé, je vais le voir quand je veux, voilà, merde.
Génial, Jaoui.
Ouais, génial.
La célébrité, donc, des personnes dont le narcissisme est constamment encouragé. C'est un peu vrai, vous avez dû en faire l'expérience sur des plateaux, par exemple, où on vous surprotège.
Oui, c'est vrai que. Ouais, c'est vrai. Mais je sais pas trop quoi penser parce qu'en même temps, il y a des excès, des abus et franchement, il faut être très intelligent et très vigilant tout le temps en fait pour ne pas verser dans le mauvais côté et se dire que c'est normal et que tout nous est dû et qu'en fait on est fragile.
Oui.
Parce qu'en fait, c'est insupportable d'être fragilisé tout le temps.
Oui.
On avait dit non, mais le parapluie, je peux le porter.
Oui, le cendrier aussi, le café. Cendrier,
ouais. Et à la fois, un jour, il y a un metteur en scène où je sais plus qui disait, il me dit bah oui, mais bon, on se sert beaucoup de vous quoi, quand même. Donc on peut bien vous protéger un peu parce qu'en fait, on vous vole des choses, on vous être acteur des fois c'est quand même, on sait pas trop ce qu'on nous
prend,
ouais, et ce qu'on bon après on n'est jamais en danger hein, moi je trouve en tant qu'acteur on risque pas nos vies hein. mais oui faut rester attentif. Mais ce que j'adore dans ce film, le rôle de sa vie, bon déjà c'est que c'est un duo d'actrices quand énorme. Même c'est vraiment un duel au sommet et en plus j'avais adoré quand je l'ai vu j'avais trouvé Agnès Jaoui vraiment réinventée. Elle avait une image un peu intellectuelle, Agnès, je pense pour les gens et ce machin. Et là, elle est d'une sensualité. Franchement, elle est bouillante.
Et puis elle humanise beaucoup son rôle en plus.
Comme c'est une actrice très intelligente et très 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 douée. Mais j'avais adoré la voir sensuelle, chantante, dansante.
Elle aussi est une grande actrice et de théâtre, récompensée au cinéma par deux Césars, d'abord pour son rôle dans Le Goût des Autres justement avec Jaoui Bacri, et dans celui-là, celui que vous avez choisi, c'est Le Bruit des Glaçons de Bertrand Blier. C'est Anne Alvaro dans laquelle elle incarne la gouvernante de Foule, qu'un célèbre écrivain qui a perdu le goût de vivre depuis le départ de sa femme et qui sombre dans l'alcoolisme. Et puis un jour, son cancer le rencontre et lui pourrit la vie. Et elle, c'est la gouvernante, la femme essentielle, juste, attentive, tendre, extrait. The ponies
run. Je l'ai regardé dormir. Il avait l'air d'un mort. Il était tout glacé. Moi, je me sentais brûlante. Je l'avais juste recouvert d'un drap. J'avais envie d'y aller sous le drap. De me coller contre lui. Sentir ma peau contre sa peau. Je me suis déshabillée. Et puis je suis entrée dans le lit. Il était complètement KO. Je pouvais lui faire n'importe quoi. Le toucher, le caresser. Poser la main où je voulais. Il réagissait pas. T'endors pas, je me disais. Réveillée, prise d'une panique soudaine, le jour rentrait dans la chambre et les oiseaux chantaient. Et lui n'était plus là.
Le bruit des glaçons, Bertrand Blier. Non mais c'est énorme parce que d'abord se trouver face à Dupontel et Dujardin, jouer le rôle qu'elle a joué, ces paroles-là, enfin Dublier quoi.
Ouais, Dublier, un monologue, une tirade.
Ouais. Grande actrice de théâtre.
Hein, alors voilà, mais c'est pour ça que j'ai choisi ça.
Oui. Parce
que
grande voix du théâtre.
Une merveilleuse actrice de théâtre. Mmh. Merveilleuse actrice, mais bon, chaque fois qu'elle fait un film, elle a un César, pas compliqué. Oui. Franchement, elle est, je pense, et en fait, je me suis dit, mais tiens, mais c'est bizarre. En fait, c'est tellement, c'est très dur d'accorder des agendas de théâtre et de cinéma, parce que le cinéma, ça se prévoit très longtemps en avance, mais ça peut s'annuler au dernier moment parce qu'on n'est jamais sûr qu'il est sous et machin ça. Le théâtre, c'est quand même, tu dois t'engager, puis et je pense que peut-être, je me disais, comment ça se fait qu'il y a autant d'acteurs et d'actrices de théâtre vraiment géniaux, ouais, et qui sont géniaux quand ils font du cinéma. Là, je pense à Christiane Millet, à Brigitte Cathillon, à Dominique Raymond, ouais, des gens
Dominique
comme ça.
Dominique Raymond.
Et en fait, Catherine Mouchet, j'adore Catherine Mouchet. Oh, Catherine Mouchet dans L'Arbre et la Forêt, pardon, elle est géniale. Elle a pareil, elle a un long monologue comme ça. Et c'est quand même des gens qui réinventent aussi un peu le rythme souvent, parce que ils ont l'habitude d'aller ailleurs que dans le naturel, et en fait ils réinventent un naturel au cinéma, les acteurs de théâtre, je trouve souvent. Mais je me dis que Catherine Mouchet, ça peut-être ça leur est arrivé deux fois d'annuler des longues tournées ou des grands rôles au théâtre pour un film qui finalement s'est pas fait, et elles se sont dit peut-être on nous reprendra pas, et du coup c'est chiant ça. Donc j'ai pas de solution, hein, miracle.
Dommage.
Mais bon, je pense qu'on en tout cas, souvent, quand les metteurs en scène et les réalisateurs ont l'audace et la curiosité et le goût du théâtre dans leur casting, ça paye.
Comme l'avait Tavernier d'ailleurs.
Et ouais.
Dans le genre actrice atypique, poétique, surréaliste, lunaire et terrienne à la fois, c'est Yolande Moreau. Vous l'avez choisi dans Quand la mer monte. D'elle, réalisé par elle et Gilles Porte, on a choisi un extrait pour ses deux voix, sa voix de spectacle et sa voix toute douce du quotidien. Ah oui. On écoute.
À l'affaire. J'ai trempé dans un crime. C'est moche, hein. Il est mort. Ça vous fait rien? Ça vous touche pas? Moi non plus.
Les températures baisseront légèrement, les brumes matinales évidemment se prolongent, mais ça sera une très belle journée avec du soleil. qui s'annonce un peu
Michel.
En France. Demain, c'est
tu dormais pas
des constants. Les constants sont des
ça va
et conséquents. Alors une petite pensée pour
non, à Valenciennes.
Constantinus, évêque
de bah, je viens de rentrer là. Oui, ça a bien marché. Et toi? Oui, il commencerait en novembre. Ça ne laisse pas beaucoup de temps pour le carrelage. Oh, ben, on verra quand je viens. Oui. Oui, mais je t'embrasse fort. Oui, dors bien. Oui, moi aussi je t'aime.
Yolande Moreau, donc, quand la mer monte. Moi, ça me fait penser à vous parce que il y a cette idée de jouer vous-même sur scène, un spectacle, et puis le déborder après dans la vraie vie. Je pense que ce film a dû vous toucher aussi pour ça.
Exactement.
Au-delà de Yolande Moreau.
Oui, bien sûr. Mais exactement, oui, parce que c'est quand même une drôle. C'est l'histoire d'une tournée quand la Montale est en tournée. Donc, et c'est quand même un. Je sais pas comment dire, une vie particulière la tournée, parce qu'en fait ce qui compte c'est le spectacle, on joue tous les jours, donc on est tous les jours projeté vers le soir, concentré là, mais il y a quand même la vie qui doit continuer, donc les choses, ça passe beaucoup par le téléphone, là on sent dans le film, et tout est merveilleusement et délicatement raconté dans ça, on sent là même dans l'extrait que, bah oui, il y a cette histoire de carrelage, il y a ce Michel, machin, mais que quelque part elle y est pas totalement, que elle est autre chose se passe pour elle, et ces deux vie un peu difficile à concilier, et puis là c'est vrai que la voix là de Yann Moreau,
c'est fou
en fait, c'est bon, il a fallu qu'elle se l'écrive ce rôle, mais un rôle d'amoureuse pour Yann Moreau, c'est trop beau quoi.
À un moment dans une foire elle dit j'hésite entre une gaufre au sucre et une histoire d'amour. Non, mais il y a quelle qui peut dire ce genre de réplique hein.
Ouais. Et si ça marche aussi bien aussi le film là, c'est qu'on l'a entendu dans l'extrait, c'est que c'est un vrai spectacle. Et souvent, je trouve que le théâtre au cinéma, les spectacles au cinéma.
Et en plus, elle le jouait devant un vrai public. Elle était filmée avec un vrai public.
Donc les rires sont les bons. Les spectateurs sont des vrais spectateurs. Et d'ailleurs, les plans sur les salles trompent pas. Ça en général, ça trompe pas.
Là et maintenant, il s'agit d'un incroyable duo d'acteurs. Ils jouent d'ailleurs leur propre rôle, Gérard et Isabelle, deux grandes stars françaises, un couple séparé qui se rend à un étrange rendez-vous. Dans la vallée de la mort en Californie, on écoute Huppert et Depardieu.
Je suis restée 7 ans sans le voir. Comment c'est possible de ne pas voir son enfant pendant 7 ans?
C'est lui qui a choisi.
Je l'ai porté, cet enfant. Je l'ai aimé. Comment on fait pour pouvoir un enfant qu'on a mis au monde?
Il refusait de nous voir tous les deux.
Il te parlait de moi?
On ne se parlait pas.
T'as rencontré son ami?
Non.
Il va bien falloir parler du problème. Tu vas pas toujours te défiler.
Quel problème?
Pourquoi elle a jamais voulu me revoir?
Je ne sais pas.
Qu'est-ce que tu lui as raconté?
Putain.
Mais qu'est-ce que tu lui as raconté pendant toutes ces années? Je peux tout entendre.
Alors entends ça. T'as laissé partir ton fils quand il avait 7 ans. Je l'ai mis en pension. À 16 ans, il n'a plus voulu entendre parler de ses salauds de parents. 15 ans plus tard, on est chacun réveillé par un connard qui nous apprend que notre fils est mort. Qu'il est venu passer ici une semaine et qu'en rentrant chez lui, il avalait suffisamment de médicaments pour mettre fin à ses jours. Si c'est de ça dont tu veux me parler, je suis pas sûr que ce soit le meilleur endroit.
T'es vraiment un pauvre type.
Oui, c'est tout ce que tu veux. Un connard, un pauvre type, un alcoolique et tout.
Et t'en oublies.
Tu m'emmerdes.
Oui, toi aussi tu m'emmerdes. Tu m'emmerdes. Putain, mais en plus ça brûle.
C'est plus vrai que nature, hein. C'est fou ce dialogue, quand même. C'est fou cette cette quotidienneté, hein, cette façon de jouer tellement sobre, tellement.
Oui, tellement pas grand-chose, quoi. Tellement. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est génial, parce que ça pourrait. C'est tellement souvent les dialogues. Ils sont. Je sais pas comment ils ont travaillé. Je sais pas si tout est écrit ou s'ils ont improvisé. J'en sais rien, mais ça peut basculer à n'importe quel moment du côté du trop peu ou de l'anecdotique ou du. Ou je sais pas, mais et ça reste nerveux et musclé à chaque fois. Mais le film, c'est franchement, il vaut une semaine de cours de comédien, parce que en fait, ce qui est
pardon, ça s'appelle Valley of Love.
Valley of Love de Guillaume Niclou.
Ouais.
C'est bon, évidemment, c'est deux monstres. les deux, de monstrueux et merveilleux acteurs, mais ils font pour moi un métier opposé. C'est-à-dire qu'ils ont, ils jouent de manière diamétralement opposée. C'est-à-dire que t'as l'impression que Depardieu est même pas au courant tellement que la caméra tourne. Il a chaud, il a trop chaud, il est là, il se laisse filmer, quoi. Tu sens que il dit les trucs qu'il doit dire, mais t'as l'impression qu'il sait pas où est la caméra, qu'il sait pas si ça tourne, si ça tourne pas, qu'il a juste chaud et qu'il se laisse voir. Et elle, en face, elle montre tout. Elle sait tout ce qu'elle fait. Elle décide, elle dessine.
Comme son caractère.
Ouais, non, mais c'est.
Comme
c'est...
son personnage.
Ouais. Et tu te dis, mais comment ça peut marcher? Et ça marche. Bah, je sais pas comment. C'est le soleil et la lune, quoi. C'est ça marche parce que c'est des. Et puis, je sais pas, moi, je suis très sensible aussi aux retrouvailles comme ça parce que c'était très beau. C'était, je sais pas combien d'années après Loulou. C'était assez insensé de se dire qu'ils avaient pas retourné ensemble. Mais ces deux, oui, ces deux acteurs radicalement différents, quoi.
Ouais, revoyez ce film Valley of Love de Guillaume Niclou. Et là, c'est un immense chanteur et un acteur.
C'est l'amour qui torture, qui blessure, qui luxure. C'est l'amour qui fait de nous des fous. C'est l'amour qui murmure, qui susurre, qui morsure. C'est l'amour qui nous rend si jaloux. C'est l'amour qui usure, qui parjure, qui rupture. C'est l'amour.
Yves Montand, donc, dans Trois places pour le 26 de Jacques Demy. Yves Montand qui revient à Marseille, régler un spectacle sur sa vie. Ce qui est beau, c'est que c'est Montand pour de vrai, Montand pour de faux, tout se mélange.
Ouais, c'est quand même audacieux de la part de Yves Montand d'avoir confié comme ça à Jacques Demy sa vie pour qu'il en fasse une œuvre de fiction, parce que c'est quand même de la fiction, mais c'est le maillage entre fiction et réalité est assez savant, je trouve, dans Trois places pour le 26. Et puis, bon, Montand, quoi.
C'est la résolution de l'inceste, thème transversal chez Demy, que Montand accepte aussi de prendre sur ses épaules.
Ça, c'est insensé, ça. Ouais. Ça, c'est dingue, ça, quand même. Oui. Tu te dis, tiens.
Oui, quand même.
Ouais.
C'est gonflé.
C'est hyper gonflé. Mmh. Hyper gonflé, et puis lui.
Montand,
je disais tout à l'heure que les actrices, c'était mon hétérosexualité, mais si je suis homosexuel, c'est à cause de Montand et Bacri, quoi. S'il y en aurait deux, il y aurait Bacri et. Non, mais c'est vrai, on est obligé d'être. Il est irrésistible, Yves Montand. C'est-à-dire que t'es obligé de succomber. Que ça soit là. Alors après, j'aurais pu prendre César et Rosalie, ou je sais pas, ou plein d'autres trucs, mais. Il est tellement imparfait, tellement exagéré, tellement. Enfin bon. Mais on aime tout, on aime les défauts, on aime les qualités, on aime le rythme, la voix. En fait, je l'ai vu là pendant le confinement. Trois places pour le 26, je l'avais pas vu. Je l'avais jamais vu parce que on m'avait dit que c'était pas le plus aimable des films. Ouais.
À tort,
je trouve, parce que moi j'étais vraiment, vraiment très séduit. Et puis bon. C'est pas les meilleures musiques de Michel Legrand peut-être, mais il y en a quand même quelques-unes qui sont quand même très très charmantes, dont une qui pourrait être une idée peut-être pour une émission, Laurent. Peut-être une chanson.
Ah oui, je vois pas ce dont vous parlez. Mais on en reparlera ensemble. Là. Vous viendrez.
Okay. Et on va terminer avec eux, un groupe d'amis dans Les Invasions barbares de Denis Arcand. Un homme va mourir et son fils rapatrie tous les amis autour de lui. On va finir dans le rire parce que le film fait vachement pleurer.
Oui, sinon c'est vrai.
Au moins la mort la plus douce. C'est celle de Félix Faure.
Tiens, donc explique maintenant pourquoi je suis pas surprise.
On peut toujours rêver.
C'est qui ça, c'est quoi?
Le bien-aimé Félix Faure, président de la République française en exercice. Son cœur s'est arrêté de battre pendant que sa maîtresse, l'admirable Madame Stenel, à genoux à ses pieds, lui prodiguait avec fermeté le pompier de tous les pompiers.
Mon Dieu.
Ses ennemis s'écrièrent, il voulait être César. Hélas, il ne fut que Pompée.
Et Madame Stenel fut surnommée la pompe funèbre.
C'est pas à moi que ça serait arrivé, ces choses-là.
Du coup, c'est quand même pas de notre faute si t'as le cœur trop bien accroché. Parce que je te ferai remarquer, mon cher Rémi, qu'à une certaine époque, moi et quelques-unes d'entre nous te pompions férocement et avec
peut-être eût-il fallu, mesdames, que vous le pompassiez plus vigoureusement.
Cela ne se pouvait, monsieur. Nous pompâmes autant que nous pûmes.
Ciel, madame, vous pompâmes.
Les invasions barbares. Oui. Vous l'avez choisi, en fait, pour le, vous avez une scène de, entre potes, entre copains.
Oui, ben oui, parce qu'il y a...
Clairement.
Clairement. Mais non, mais parce qu'il y a ce qu'on appelle les, comment on a, les films de potes.
Oui, au cinéma, oui, c'est, les buddy movies.
Buddy movies, voilà. Buddy movies. Et souvent, j'aime pas. Oui. J'aime pas trop. Non, mais souvent, je me dis, non, mais personne n'est ami comme ça dans la vraie vie, c'est pas possible. Personne n'est ami sur un voilier, il fait pas beau tout le temps dans une maison, au bord de la mer. C'est toujours un peu tarte à la
crème.
Ah, non. Mais par contre, l'amitié comme celle-ci, moi, j'y crois, dans Les Invasions Barbares. Ah, ouais. Et puis, en plus, c'est aussi un film sur les adieux, quoi, sur comment quitter la vie. Ça, je pense que ça, et en fait, personne ne peut faire un film là-dessus parce que personne ne l'a vécu. Je veux dire, quand tu l'as vécu, tu après c'est trop tard pour faire un film.
La force de le filmer. Pour...
ouais, voilà. Donc là, pour réussir ça, pour le sublimer, cette chose-là, il fallait le talent de Denis Sarkand et de ses acteurs qui sont quand même. C'est une troupe. J'ai l'impression qu'ils ont formé une bande. Ouais. Oui, une bande.
Rémi Girard, Stéphane Rousseau notamment. Ouais. Vous restez avec nous. C'est déjà fini avec ces films, ces choix de films. Vous restez avec nous, on se retrouve pour les conseils. En attendant, on écoute Pomme les cours d'eau. Voilà, on était en train de reparler de Peindre ou faire l'amour des frères Larrieux, qui est vraiment un super joli film, Laurent.
Oui.
Qu'est-ce qu'on peut lire de cinéma chez soi? On va commencer avec Amos Gitai, Yitzhak Rabin, chronique d'un assassinat. En fait, c'est bon, Rabin, le premier ministre israélien, tué de 3 balles tirées à bout portant à la sortie d'un rassemblement pour la paix par un extrémiste juif le 4 novembre 1995. Que fait-il avec ça, le cinéaste Guy Taille ?
Eh bien, il en fait tout. Il en fait énormément de choses. C'est-à-dire, il en fait des images, il en collectionne des photos, il fait un film, il rassemble des témoignages, il va interviewer Shimon Peres. Bref, il rassemble tout ce qui est possible de rassembler autour de cet événement qui, évidemment, l'a fracturé, l'a brisé, comme l'ensemble de la gauche israélienne et comme l'ensemble du pays aussi. Et quand les musées, les bibliothèques voudront bien rouvrir, on ira voir à la BNF François Mitterrand, justement, une exposition entièrement faite autour de ce travail fait par le cinéaste israélien. Et Gallimard nous en donne un aperçu de ce travail avec ses chroniques d'un assassinat, Guy Taille Rabin, où il y a notamment des textes de l'historien qu'on connaît bien ici, Antoine Debacque. Donc c'est vraiment un très très beau travail. Il a donné, Guy Taille, toutes ses archives pour cette expo, pour ce livre, et c'est un, j'aime pas le mot travail de mémoire, mais enfin franchement c'est bien au-delà d'un simple travail cinématographique entre guillemets. C'est chez Gallimard et ça s'intitule Chronique d'un assassinat.
Judoka de Thierry Frémaux chez Stock, le directeur de l'Institut Lumière à Lyon et délégué général du Festival de Cannes, remonte le chemin parcouru et cette pratique du judo, sport et cinéma racontent notre siècle, écrit-il. Ils sont populaires, ils produisent du sens, du rêve et du drame. Beaucoup de judo, beaucoup moins de cinéma, il y avait quand même une parenthèse, un très bel entracte avec Tarantino d'ailleurs.
Oui, alors il faut pas le croiser, il faut pas l'énerver, hein. Il est ceinture noire quatrième dan quand même Thierry Frémaux, donc faut faire gaffe. Et en même temps, il a par exemple des très belles trouvailles. Je trouve qu'il dit qu'il essaye évidemment de faire la synthèse entre le cinéma et le judo, de voir ce qui rassemble ces deux passions. Ben il y a juste le mot projection. Oui. On projette à terre quelqu'un et puis on va faire une projection de film. Bon, donc le directeur du Festival de Cannes paye en quelque sorte sa dette envers ce sport de sa jeunesse. Il dit ainsi de façon très belle, je trouve. C'est sur un tapis que j'ai compris que la culture sauvera le monde. Pratiquer un sport méconnu, me préparer à l'obscurité des passions cinéphiles, à l'inclination pour les artistes oubliés et au rejet des modes. Je trouve que c'est vraiment une belle façon d'essayer de faire la synthèse. Alors effectivement, on croise Kurosawa, Tarantino, vous l'avez dit, Yves Klein, et il cite aussi Foucault. On ne se définit pas par des positions, mais par des trajectoires. Je trouve que c'est la phrase magnifique. Bref, il nous dit, tu peux quitter l'enfance, mais ton enfance ne te quitte pas. Et il faut lire ce livre parce que on s'aperçoit que derrière le smoking, il y a toujours le kimono du petit garçon. Et ça, c'est très très beau. Thierry Frémaux, chez Stock, ça s'appelle Judoka. Je dis également que vous pouvez lire sur le net le très très bel hommage en distance, en quelque sorte, qu'a fait Thierry Frémaux à Bertrand Tavernier.
Deux DVD, Laurent Lange, Noir de Roy William Neal, édité par Sidonie, c'est un polar d'une lumineuse noirceur.
Petite merveille, édité par Sidonie, en effet. Moi, je connaissais pas Roy William Neal. En fait, on le connaît parce qu'il a fait
Sherlock Holmes.
Exactement. Ouais. Voilà, vous avez tout à fait raison. Toute la très belle série, très intelligente des Sherlock Holmes. Il a fait également ce film, L'Ange Noir, qui sera son dernier. Il mourra d'une crise cardiaque peu de temps après, je crois, la sortie. C'est vraiment une petite merveille avec la classique histoire du faux coupable, avec un autre faux coupable aussi encore qui est joué par Peter Lorre.
Le tenancier du cabaret.
Exactement, quand on voit Peter Lorre, on se dit il est coupable. C'est pas si simple que ça. Donc il faut vraiment regarder ce film pour ce qu'il est, un merveilleux polar. C'est d'ailleurs ce que nous disent et Patrick Brion et François Guérif et Bertrand Tavernier dans les bonus de ce DVD qui mettre un plus à notre peine à propos de Tavernier, parce que décidément c'était un passeur incroyable. Ça s'appelle L'Ange Noir et c'est chez le bel éditeur Sidonis.
Un soupçon d'amour, un film de 2020 déjà signé Paul Vecchiali, édité par Épicentre.
Nous fêterons le 28 avril prochain les 91 ans du tonton fringant du cinéma français, Paul Vecchiali. Moi, je suis très très heureux de ça, l'amoureux radical de Daniel Darieux. Alors cette fois, c'est Marianne Bassler qui est au centre de son film. Il faut pas trop le raconter, ce film, parce que c'est le film sur une actrice. Tiens, Vincent de Dienne, ça devrait vous plaire. Elle hésite à jouer dans une pièce et puis surtout, elle a un secret. Ce secret, je n'en dirai rien, sinon ça ne vaut pas le coup de voir le film. Mais c'est magnifique du début jusqu'à la fin avec cette
espèce de grâce incroyable qu'ont toujours les films de Vecchiali sur la corde raide. Ça peut tomber, ça ne tombe pas, ça résiste et c'est magnifique. Ça s'appelle Un soupçon d'amour et c'est édité par Épicentre.
On a le temps maintenant pour le cadeau pour Vincent de Dienne.
Mais oui, alors Vincent de Dienne, on s'est dit que peut-être le fan absolu de Catherine Deneuve que vous êtes ne connaît pas Âme perdue de Dino Rizzi.
Non, je connais pas. Ah,
bon, alors gagné. Combo Blu-ray DVD. Dino Rizzi 1976, le film est de 76. Ça n'a rien à voir avec sa veine monstrueuse, hein. Ça n'a rien à voir avec sa veine décapante. C'est plutôt l'ex-psychiatre là qui parle et qui met en scène. Il disait c'est pas mort à Venise, c'est mort de Venise. Ce film, ça se passe dans un palais effectivement vénitien absolument décati, absolument délabré, très mystérieux, très angoissant. Il transforme presque ce palais en la maison, l'hôtel, le motel de psychose d'Hitchcock. Et au milieu, il y a un couple, pas improbable du tout, magnifique, mais avec des ramifications que je vous laisserai découvrir. Catherine Deneuve, Vittorio Gassman. Je ne dirai rien là non plus du secret qui traverse et le palais et le film et qui fait que vous allez découvrir des choses notamment sur la personnalité réelle de Vittorio Gassman, mais Deneuve y est sublime. Elle est dans le droit fil de ce qu'elle a fait avant pour Buñuel notamment. Ouais. C'est exactement ce genre de personnage-là, très mystérieux, très à la fois inquiétant mais absolument craquant. Et puis il y a dans ce DVD édité par ESC un très beau bonus de René Marx qui nous explique en détail toutes les qualités de ce film assez méconnu et qu'on est du coup très très heureux et ECS avec nous de vous offrir. Oh,
c'est trop gentil, merci beaucoup.
Deneuve avec laquelle vous avez tourné.
Ouais.
C'est quoi le plus surprenant avec elle?
Le plus surprenant.
Une image qui vous revient.
C'est qu'elle connaît tout, mais je veux dire, elle connaît, elle sait ce que c'est qu'un groupe électrogène, elle sait comment brancher un groupe électrogène.
Oui.
Moi, je sais même pas ce que c'est un groupe électrogène, et elle sait. Le plus surprenant, c'est que le cinéma donne le nord de toute sa vie, on le sent, mais qu'elle est passionnée par d'autres choses aussi, que du coup, elle a d'autres sujets de conversation, et qu'en fait, à un moment donné, tu parles à une bonne femme.
À quelqu'un, quoi.
Merveilleuse, oui. mais tu te dis pas que tu parles à une star, ni à une vedette, ni à une actrice. Donc ça, c'est étonnant.
Merci.
Et puis qu'elle est très généreuse, elle fait des cadeaux.
Ouais. Ouais.
À tout le monde.
Ouais. Merci beaucoup, Vincent.
Merci
de merveilleux de vous avoir.
Ouais.
On vous laisse les clés du générique. Au revoir.
C'est une émission inspirée par tous les films de cinéma. Il y a des réalisateurs et des acteurs. Il y a aussi des scénaristes et des chefs opérateurs. Les prises de vue sont des prises de son. Georges Delru a écrit les musiques du générique. Les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez. Christophe Magère s'est occupé de la préparation. C'est une émission réalisée par Laurent Thomas et Claire Destacan. Elle est produite et présentée par Christine Masson et Laurent Delmas. Et moi, Vincent de Dienne, j'y étais.